complètent les uns les autres, et ça nous a permis aussi d'être édifiés. Et là, on a fait à peu près le tour de tout le monde. Bon, il y en a peut-être une ou deux qui manquent encore, donc on rate. C'est bientôt le 20 janvier, et c'est une journée particulière. Le 20 janvier, c'est la journée Martin Luther King. Et j'avais vraiment à cœur de présenter un témoin. Vous le connaissez sûrement, mais j'aimerais le présenter dans l'axe de la vision de l'Église. C'est ça, c'est un peu particulier. Et témoin de Dieu dans la société, journée Martin Luther King. Donc il y a eu déjà des choses qui ont circulé. C'est un homme qui m'a beaucoup inspiré, et vous allez voir plusieurs points. Témoin de Dieu. Je rappelle cette parole pour chacun de nous, qui est le Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2, lorsqu'il est dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Ici, l'idée de courir, elle est mise en rapport avec l'idée de regarder en arrière. C'est un peu bizarre. Mais il est dit que si tu as conscience de la nuée de témoins, eh bien tu te mets à courir. C'est quelque chose, c'est mon dada depuis des années, ça, avec les témoins dans l'éducation. Mais c'est les témoins dans l'Église aussi. Et je pense que ce soir, Dieu veut toucher nos cœurs et raviver une détermination particulière. Et donc, Martin Luther King, en quelques mots, 1929-1968, donc Atlanta, il est né en 15 janvier 1929, assassiné 1968 à Memphis. Il était pasteur, église baptiste, militant, non-violent, les mouvements pacifistes hein, et les droits civiques aux États-Unis des Noirs américains pour la paix et contre la pauvreté. Et j'aimerais montrer comment tout ça, ça s'enracine dans un terreau biblique sans lequel il n'y aurait pas pu avoir cet homme-là. Et donc on va voir. Donc je présenterai deux vidéos aussi courtes. Il y en a une où vous aurez un petit travail, je vous expliquerai, et un petit travail de partage. Alors quelques mots sur les parents. Et vous savez que c'était l'époque de la ségrégation, une ségrégation dure. Il avait un copain à l'école primaire, un copain blanc du voisinage, du quartier. Et c'est vraiment un super copain. Ils jouaient tout le temps ensemble, ils étaient tout le temps ensemble. Quelques jeux chamailleries, mais vraiment ces deux-là, inséparables. Et puis, ça ne changeait pas le fait qu'il soit blanc, noir, il n'y avait aucun problème. Et puis seulement un jour, il a fallu que les enfants... Ah oui, il y a l'école un peu plus grand. Et là, ça a commencé, les choses ont commencé à se compliquer. Et la ségrégation, elle était aussi bien dans l'école. Et donc, ils ne pouvaient plus fréquenter le même établissement. Alors déjà, ça a travaillé son cœur de jeune garçon. Et puis, il a été désenchanté et élevé, pourtant, dans un milieu assez protégé, la bourgeoisie noire, naissante à l'époque. Hein. Et puis, ce qui était dur à supporter pour lui, c'est de ne plus pouvoir être avec son copain. Et il ne comprenait pas pourquoi. Et donc, la première fois, il va voir ses parents, il demande des explications. Et ses parents lui parlent des tragédies causées par la ségrégation. Et il mentionne les humiliations qu'ils ont dû eux-mêmes subir. Pour la première fois, il était encore petit garçon. Et là, il dit ceci, j'étais profondément choqué. Pour la première fois, il réalisait la dureté de ce monde. Et à partir de ce jour-là, petit garçon, 8 ans, quelque chose comme ça, il a résolu de haïr les Blancs. Parce que c'était trop fort, le mal pour ses parents et le mal qu'il a subi. Et c'est là que ses parents, on retrouve dans la biographie, lorsqu'ils disent « Ne te rabaisse jamais ». Au point de te laisser aller à la haine. Et quand c'est tous les jours qu'on trinque, cette parole, ce genre de parole, c'est autre chose. Hein. C'est pas, c'est vraiment. Et je vais vous donner des exemples, mais dire ça, c'est vraiment dur, je trouve. Et puis, ne te pense jamais que tu es inférieur à qui que ce soit. Tu dois toujours te souvenir que tu es quelqu'un. Donc, ce sens de l'identité était donné très tôt. Et on va le voir toute sa vie, il savait qui il était. Et ça va jouer un grand rôle. Et pour nous tous ici, est-ce que nous savons qui nous sommes ? Sache que tu es quelqu'un. Voyez. Donc, voilà, les Blancs le traitent comme un moins que rien. Et plus il grandit, plus cette haine va se renforcer. Et les humiliations sont fréquentes et ça déchaîne une rage chez lui de plus en plus irrésistible, irrépressible. Et un jour, il est dans une boutique au centre-ville, par exemple. Un des nombreux exemples, hein. Il y a une femme blanche qui vient, accommodée par sa présence dans le magasin. Elle lui allonge une claque et elle le traite de petit nègre. Et alors, il tremble de colère, il voit les policiers blancs qui arrivent et qui brutalisent aussi régulièrement les enfants noirs qui n'ont pour tort que d'être là sur le passage des blancs. Donc, c'est ça, tous les jours. Hein. Et donc, voilà, il a vu des lynchages, il a vu, voilà, c'était l'ambiance. Et dans ce contexte ségrégationniste, les injustices, humiliations étaient quotidiennes. Et donc, les parents, vous voyez, ils avaient un discours de paix. Tu rentres pas dans la haine, tu vas pas sur le même terrain, etc. Alors, il a eu aussi influence d'église. Alors, c'est église baptiste. Hein. Et puis, son père était pasteur, sa mère organiste. Et là, il a connu l'église baptiste, c'est-à-dire tout le dimanche à l'église, hein, les soirées et quelques à partie d'après-midi de la semaine. Donc, c'était vraiment, ça trempait dans une atmosphère d'église. Et j'aimerais vous lire un poème d'un noir qui, dans ce contexte de la ségrégation, voilà ce qu'il trouvait dans l'église, dans son église. Et en écoutant ce poème, imaginez-vous ce que ça peut être, que notre église, ça puisse être aussi ce lieu où on peut ressentir ça. Et vous allez voir, c'est très fort, je l'ai noté ici. Donc, je le lis, hein. Je suis un homme noir. J'ai beau avoir 50 ans, on m'appelle mon garçon. Pendant 6 jours de la semaine, je ne suis personne, même pas un être humain. Mais le dimanche, dans mon église, je rassemble tout mon être. J'y retrouve intégrité et plénitude. Oui, dans l'église noire, je deviens une personne. À la fois mère, père, consolatrice, protectrice, mon église noire est un lieu social, un foyer de liberté, un centre culturel, le réservoir de mon héritage spirituel, le champ de mon âme. Dans mon église noire, j'ai trouvé réconfort et force pour supporter les pressions qui en ont envoyé tant d'autres à l'asile. Mon église noire m'a sauvé du suicide et m'a permis de survivre au maître des esclaves. Dans le témoignage des Hébreux de l'Antiquité, qui ont connu l'ignominie de l'esclavage, j'ai trouvé du réconfort, un sens d'identité. Ils sont mes frères spirituels. Et je sais qui est le Dieu qui veillait sur eux. Je connais ceux de là et je peux le chanter. Et c'est pour ça, s'identifiant aux Hébreux, esclaves en Égypte, tous les chants, les négros spirituels, etc., ça vient de ce terreau de l'identification avec le peuple juif esclave. Et c'est ça qui leur donnait le courage. Donc il y a eu des études et il était assez précoce, assez doué, et puis tout de suite il savait bien parler, il n'était pas facile au niveau caractère non plus. Et il a bénéficié dans une université de 3 géants intellectuels et qui l'ont beaucoup touché. Dans le milieu noir, dans les églises noires en général, il n'y avait pas beaucoup de niveau intellectuel. Et donc il a un peu souffert d'un côté simple qui parfois était simpliste, quoi. Et du coup, à l'université, tout d'un coup, il voit qu'il y a des pointures au niveau intellectuel qui étaient aussi des gens de foi. Et là, ça a réveillé quelque chose en lui. Et on va voir que là, les références qu'il va avoir plus tard, c'est une arme. Il a été armé non seulement au niveau de la foi, mais il a été armé au niveau de l'intellectuel. Et ça, c'est un peu notre vision aussi au niveau des écoles chrétiennes, etc. C'est la foi, c'est bien. Mais c'est avoir l'intelligence de la foi, c'est encore mieux. Et c'est pour ça que ce combat en France d'une intelligence obscurcie qui s'oppose à la foi, il faut tellement voir les deux se lever. Donc voilà, petit à petit, il s'en rend compte, il commence à changer. Il y a un cheminement intérieur à cause des exemples, les grands exemples devant lui, des exemples de foi, pas de haine, on répond par la non-violence, tout ça. Donc ça l'a marqué. Et puis, il a décidé de devenir pasteur. Donc, il a fait des études de théologie. Et puis, il avait un comportement étonnant. Alors, je vous donne juste un exemple, mais ça, c'est pour nous montrer dans la vie concrète, hein, que ça nous encourage. Donc, il y avait un étudiant originaire de Caroline du Nord qui déboule un jour dans sa chambre, après avoir violemment tambouriné à la porte. C'était un blanc. Et c'est au tout début où il y avait du mixage un peu là. Et alors, il est bien connu dans l'université pour les idées racistes. Il est furieux de ce que cette université ait été ouverte aux Noirs tout récemment. Et alors, il traite avec mépris les Noirs, etc. Et contrairement à l'autre université qui était réservée aux Noirs, d'où il sortait, cette université de théologie, ben, les profs, ben, ils étaient blancs, et la plupart des étudiants aussi. Et donc, ils étaient que 11 Noirs dans toute cette faculté. Alors, l'étudiant débarque dans la chambre de Martin, il hurle en l'accusant d'avoir saccagé sa propre chambre. Sa chambre est dans un piteux état, c'est vrai, mais King, il n'est pas responsable de ce qui s'est passé, mais on l'accuse. Alors, le jeune homme est hors de lui, il sort un pistolet, il vise sur la tempe Martin, et Martin ne perd pas son sang-froid. Et il regarde l'interlocuteur dans les yeux avec une maîtrise, et il déclare d'une voix calme, ça c'est étonnant, qu'il n'a jamais absolument rien à voir avec cette histoire de saccage. Mais les hurlements de l'autre ont alerté les autres étudiants, et les autres arrivent, désarment le forcené, et ce Martin est resté calme jusqu'au bout. Et par la suite, il a refusé de porter plainte, et ensuite on a su qu'il était innocent, quoi. Et ça, là, du coup, ça a eu un renversement dans toute l'université, et ça a été la mascotte de toute l'université, des blancs et des noirs. Cet épisode qui aurait pu être tragique, il a retourné. Et donc, il a acquéri quelques convictions, j'en note quelques-unes, mais des convictions solides que personne ne pourrait enlever. Première, il y a un ordre moral qui sous-tend l'univers. Deuxième, Dieu agit dans l'histoire. Troisième, la valeur de la personne. Ça, on va le retrouver très souvent dans son combat. Et est-ce que nous, aujourd'hui, dans notre société où l'être humain est dévalorisé, devient machine, etc., cette notion de la personne, c'est tellement important. Et puis le caractère social de l'existence, l'engagement social, c'est-à-dire le culte, et c'est notre vision ici, que le culte ne reste pas culte. Tout à l'heure, c'était cultuel ce qu'on a fait. On a chanté, on a adoré. Mais le but, c'est que le culte déborde sur la culture. Et la culture, c'est le social, c'est tout ça. Et donc, l'idée, le caractère social d'existence, et puis la nature éthique de la foi chrétienne. Il y a une éthique de la foi qui doit se voir ailleurs. Alors, à l'université, il va rencontrer sa future épouse, étudiante en musicologie, c'est pour ça qu'elle va être organiste. Donc, il a eu des enfants et il a été très intéressé par les idées pacifistes de Gandhi. Vous savez que Gandhi, ce pacifiste de l'Inde, il est venu en Angleterre. Il a lu les évangiles. Et vraiment, Jésus, pour Gandhi, il était attiré par la foi. Et quand il a vu l'Église, il a dit, c'est pas ça que je veux. Et ça a été tragique. Mais voilà, donc, alors par contre, Martin Luther King, il a lu tout Gandhi, etc. Et il s'est inspiré de ces techniques de la non-violence. Donc, il y a une étincelle qui arrive un jour. Vous connaissez peut-être l'histoire, c'est Rosa Parks. Alors ça, c'est quelque chose, un petit bout de femme que personne ne connaît, qui va déclencher un des plus grands mouvements de contestation aux États-Unis. Elle est dans un bus et puis elle a 42 ans, elle est couturière, membre d'une association des femmes noires qui cherche à faire des actions justement pour mettre le projecteur un peu sur cette ségrégation. Et puis il y a un homme blanc qui lui dit « Donne-moi ta place, c'était la loi » et elle refuse. Et donc là, ça a commencé à bouger. Il y a eu procès, il y a eu les médias, il y a eu des manifestations ensuite des Noirs, actions non violentes, etc. Et puis, cette idée de ne plus prendre les bus pendant un jour, deux jours, 10 jours, 30 jours, ça a duré 360 jours et quelques. Et donc, du coup, les compagnies de bus, ben, ça chutait, quoi, ça ne marchait plus. Et donc, cette action non violente a bougé, a fait bouger les choses. Et lui, il a 26 ans. Martin Luther King. Et il était élu président de l'association de l'amélioration à Montgomery, c'est la ville où tout ça s'est passé. Donc il a été témoin de cette action non violente et il a commencé à bouger. Donc 381 jours ça a duré. Et c'était le mouvement de la lutte. Et alors, donc il s'est engagé donc, très jeune. Et puis il était toujours sur tous les fronts, les manifestations, etc. Ça commençait à déborder partout dans le pays. Et plusieurs fois, il a eu des profonds découragements. Et j'aimerais souligner ces découragements, parce que à qui c'est ça? On a une mission en tant qu'Église, on a une mission en tant que chrétien. Et si on ne sait pas passer au travers des phases de découragement, on n'atteindra jamais le bout. Et voilà une des phases qu'il a eues. Je cite, un soir, il a un gros coup de déprime, il rentre chez lui, la tête basse, il est découragé au plus profond de lui-même. Il est au bord du gouffre du découragement. Il est prêt à baisser les bras, à tout abandonner. Et dans la cuisine déserte, il se prépare une tasse de café, il s'assoit à la table, il pose sa tête dans ses mains. Et est-ce que ça vaut le coup de continuer dans ces seules conditions? Et voilà qu'au milieu de ces ténèbres, tout d'un coup, le sentiment d'une présence, la présence de Dieu. Et là, il est convaincu que Dieu se révèle à lui pour le réconforter. Et sans explication, il ressort de ce moment renforcé dans la foi, dans l'avenir. Et la nuit de découragement est devenue la nuit de la rencontre avec Dieu. Et donc, paix intérieure, etc. Et il a commencé à voir les moyens, Dieu lui montrait les moyens de sa mission de réconciliation entre les blancs et les noirs. Donc, c'était un ministère de réconciliation. Qu'est-ce que Dieu nous a donné ? Un ministère de réconciliation. Chaque époque, il y a des divisions différentes. Mais là, il a exercé cette profonde réconciliation. Et puis, comme pour voir ce qu'il vient de vivre va durer, 3 jours après, une bombe, après être levé, une bombe est déposée dans son domicile. Donc, il avait sa femme, ses enfants. Hein. Donc, bombe. Alors, imaginez, il y a un moment où on a envie de tout arrêter. Donc là, il est sous le choc, son entourage aussi. Et puis, les gens, les amis, ils sont inquiets. Ils lui disent, écoute, tu devrais quand même avoir une arme. Comme ça se fait partout aux États-Unis. Hein. Et là, c'est le combat. Sa conviction, c'est la non-violence. Tous ses amis lui disent, porte une arme. Et une bombe a sauté et ses enfants étaient là. Il n'y a pas eu de dégâts, hein, là, mais quand même. Alors là, il était prêt à prendre une arme. Et là, sa femme intervient. C'est là qu'on voit les histoires de couple, c'est intéressant. Et sa femme lui dit, elle s'appelle Carota, elle lui dit, mais sois cohérent, tu ne peux pas porter une arme avec tous tes principes. Là. Pas possible, sois cohérent avec ce que tu crois. Et elle l'a engueulé. Et du coup, elle l'a dissuadé d'aller dans cette voie du port d'armes. Et il a résisté. Et voilà. Donc, plus tard, il va dire ceci, écoutez ça. Il a dit, c'est en vivant concrètement cette expérience de protestation populaire que la non-violence est devenue pour moi bien plus qu'une méthode à laquelle j'aurais adhéré intellectuellement. Elle est devenue un engagement et une manière de vivre. De nombreuses questions à propos de la non-violence que je n'avais pas résolues intellectuellement avaient tout à coup trouvé une solution dans la sphère de l'action politique. Donc voilà, cette cohérence... Ça donne l'autorité. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que la cohérence avec notre foi, avec nos valeurs, quand on les vit, ça donne de l'autorité. L'autorité de la voix, des discours de Martin Luther King n'aurait rien eu comme autorité s'il n'était pas passé par toutes ces étapes. Rejet, ségrégation, haine à vaincre, etc. C'était vraiment un parcours, on peut dire, du combattant. Donc, il y a eu aussi ces moments douloureux. Et là, je cite ses paroles à lui. Les moments douloureux par lesquels je suis passé durant des années m'ont porté plus près de Dieu. Plus que jamais, je suis convaincu de la réalité d'un Dieu personnel. En vérité, j'y ai toujours cru. Mais autrefois, l'idée d'un Dieu personnel n'était pas beaucoup plus qu'une catégorie métaphysique et je trouvais théologiquement et philosophiquement satisfaisante. Désormais, c'est une réalité vivante, confirmée par les expériences quotidiennes. Dieu a été profondément réel pour moi ces dernières années. Au milieu des dangers extérieurs, j'ai ressenti la paix intérieure. Dans les jours solitaires et dans les nuits lugubres, j'ai entendu une voix intérieure qui disait « Voici, je serai avec toi ». Et lorsque les chaînes de la peur et les entraves de la frustration avaient presque paralysé mes efforts, j'ai senti la puissance de Dieu transformant la lassitude du désespoir en élan d'espérance. Je suis convaincu que l'univers est contrôlé par un dessein d'amour et que dans le combat pour la justice, l'être humain a une compagnie cosmique. Ça, c'est fort, ça, hein. Nous avons une compagnie cosmique. Est-ce qu'on en est conscient ? J'ai compris que toute crise comporte à la fois des dangers et ses chances. Elle peut tourner soit au salut, soit à la condamnation. Dans un monde livré aux ténèbres et au désordre, le royaume de Dieu peut encore régner dans le cœur des êtres humains. Et c'est là qu'on arrive au fameux discours du célèbre 28 août 1963 devant 250 000 personnes au mémorial de Lincoln Memorial à Washington. Et donc, ça dure 10 minutes, ce discours. Alors, la question que je vous pose, il y a une première partie, ça donne un peu le contexte. La deuxième partie du discours, c'est ce fameux discours « J'ai fait un rêve ». Et ce que je vais vous demander, peut-être, c'est, dans ce discours de deuxième partie, essayez de voir quelles sont les références bibliques sur lesquelles il s'appuie pour parler et proclamer. Il y en a au moins 4. Donc, peut-être, les biblistes, là... Attention, soyez aux aguets. Et j'aimerais qu'on voit ce message aussi. Dieu veut qu'on ait un rêve. Et la vie chrétienne, c'est avoir un rêve de Dieu pour notre pays, pour notre vie, pour notre famille, pour nous-mêmes. S'il n'y a pas de rêve, c'est qu'il n'y a pas de foi possible. La foi, elle est activée, elle active un rêve. Regardez, Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles, regarde le sable. Il active l'imagination. Donc, en écoutant ce discours, J'aimerais que vous posiez la question, est-ce que j'ai un rêve ? Et demandez à Dieu de le réactiver. Donc voilà ce discours, on va l'écouter, c'est 10 minutes.
In the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, language in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. So we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. He cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. Satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama with its vicious racist, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. Yeah. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day when all of God's children be able to sing with new meaning, my country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, yes, let freedom ring. From the heightening Alleghenies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, yes, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California, yes. But not only that,
Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
La déclaration. Pardon? Ah oui, pardon.
Oui, en fait, vraiment, ce qui m'a touchée avant qu'il y ait les passages bibliques, c'est qu'il a présenté son rêve en l'enracinant dans la vision du pays qui avait été déjà donnée sur le pays. Cette déclaration.
Alors, les textes, vous avez vu? Oui. Et c'est quel prophète, ça? Ésaïe 40, hein, que toute vallée soit exaucée, toute montagne, toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine, les défilés entreront en vallon, alors la gloire d'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, la bouche de l'Éternel a parlé. Donc Ésaïe, ensuite, d'autres prophètes cités. Hein? Daniel. Oh, la fournaise d'oppression, juste. Oui? Oui, mais on voit. Ensuite. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Oui, c'est dedans par rapport au caractère. Je redis là. Oui. Oui. Ensuite, la vallée de Baca transformée. Donc, le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de la mort. Ah oui, 84. Oui. Oui. Amos aussi, j'ai vu. Que la droiture soit comme un courant d'eau. Et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Hein, fleuve de justice. Oui, la gloire qui couvre tout. Le rocher de la fraternité. Le rocher des siècles, Jésus. Psaume 30. Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les peurs, le matin l'allégresse. Et puis Galates 3. Vous êtes ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, vous êtes tous en Jésus-Christ. Ce qui est intéressant dans ce discours, c'est qu'il est pétri de paroles. Et en fait, là, nous avons la démonstration d'un prophète au niveau de la société. Et l'Église est appelée à être ça. L'onction prophétique, ce n'est pas pour dans l'Église. C'est bien, ça commence là, on s'entraîne. Mais le but, c'est être prophétique en dehors. Vous avez vu, il a parlé sur les États-Unis, il a décrit toutes les extrémités, tout, voilà. Et il a parlé, ça s'appelle prophétiser. Et devant 250 000 personnes, il y a un poids de gloire et d'autorité, je peux vous dire, vraiment fort. Hein. Donc c'est ça qui est, je crois que ça nous parle en tant qu'Église. Et je rappelle ce que Bill Johnson disait, donc voilà les passages, au moins, il y en a d'autres, ce que vous avez dit. Nous devons rêver grand. Au point que sans l'intervention qui vient de la faveur de Dieu ou des hommes, nous ne pourrions jamais accomplir ce qui est dans nos cœurs. Ça ne dépend pas de nous, quoi. Donc rêvez grand. Et puis aussi, vous êtes l'idée de Dieu. Il désire ardemment voir le trésor qui est dans votre cœur. En apprenant à rêver avec Dieu, nous devenons des collaborateurs avec lui. Et on se rappelle aussi, juste quelques citations de Martin Luther King. Écoutez ça, c'est du béton, c'est impressionnant. Chaque phrase. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Voilà. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défi. Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marcher. Si vous ne pouvez pas marcher, alors ramper. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer. Ça, c'est... Voilà. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Hein? Ensuite, l'obscurité, ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour peut faire cela. Là, c'est vraiment une révélation. Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. Et quand on parle de l'antisémitisme montant, mes amis, ça nous parle aussi, ça. Hein. Dieu a les deux bras étendus, l'un est assez fort pour nous entourer de justice, l'autre assez doux pour nous entourer de grâce. Ensuite, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous comme des idiots. Ensuite, la haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie, l'amour la rend lumineuse. La non-violence est une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et anoblit l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. Hein? Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Ça nous parle de notre vision. Est-ce qu'on a vraiment des causes pour lesquelles on est prêt à tout donner? La vraie compassion, ce n'est pas jeter une pièce à un mendiant, c'est comprendre la nécessité de restructurer l'édifice même qui produit les mendiants. Et ça va être la vision de Martin Luther King. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement toucher les gens, les cœurs, mais il faut changer les structures. Et ça s'appelle la réforme. C'est une réforme. La plupart des gens, des chrétiens en particulier, alors celle-là, je la kiffe grave, je la cite partout, et des chrétiens en particulier sont des thermomètres qui enregistrent l'opinion de la majorité, pas des thermostats qui régulent et transforment la température de la société. Les chrétiens sont des suiveurs de culture plutôt que des initiateurs de culture. Ça, c'est dans son livre qui s'appelle « La force d'aimer ». Je vous invite tous à lire ce livre. Alors, la Bible d'un côté, « La force d'aimer » de l'autre, ça peut aider. C'est un livre facile et vraiment excellent. Et puis, dernière citation, « J'ai décidé d'opter pour l'amour ». Voilà. La haine est un fardeau trop lourd à porter. J'ai vu trop de haine, c'est pourquoi j'ai décidé d'aimer. Voilà. Si la mort physique est le prix à payer pour libérer mes frères blancs d'une mort spirituelle irrévocable, rien ne peut être alors plus rédempteur. Vous rendez compte ? C'est un peu l'apôtre Paul qui dit, si je pouvais donner ma vie pour mes frères juifs, ben je le ferais. Et là, il est mort, hein, il était assassiné, on va le voir. Mais son amour pour les Blancs, ça c'est. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Hein. Et nous arrivons au dernier discours, et on termine très bientôt. Donc il devient donc le plus jeune lauréat en 64, hein, prix Nobel de la paix, pour sa lutte non violente contre la ségrégation. En 68, il est au Mason Temple, Church of God in Christ, siège mondial. Et puis il fait un discours prophétique. Et là, vous allez écouter, c'est le dernier discours, la veille de l'assassinat. Donc, le 3 avril, il fait ce discours. Le lendemain, il va mourir. Et vous allez voir, ce discours, il est tout aussi prophétique. Et moi, il m'interpelle fortement par rapport à notre vie chrétienne. Il est beaucoup moins long que l'autre et je vous invite à l'écouter.
We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
Mourir m'est un gain. 2 Timothée 4. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Donc, voyez, je pense que je ne voulais pas passer à côté cette journée, parce que je pense que l'appel de l'Église et l'appel de chacun de nous, c'est ce même appel, ce même appel. On a besoin d'une même conviction, d'un même enracinement dans les Écritures, d'une même conviction de l'amour de Dieu et d'une même détermination à aimer envers et contre tout. Et là, il y a quelque chose de très fort. Et ça a changé les lois, ça a changé tout. Hein. Tout n'a pas été devenu parfait, ce n'est pas encore le paradis, mais voilà, l'onction prophétique. Et je pense que Dieu veut lever aujourd'hui des communautés prophétiques, voyez, des communautés prophétiques qui dénoncent l'injustice et qui, avec cette même conviction et cette même passion qu'est Martin Luther King. Veut simplement prier, conclure comme ça. Et que quelqu'un voudrait réagir courtement ou... Ça va, je vois qu'il est tard, on veut pas. Voilà. Je vous invite vraiment à. On va simplement prendre un temps devant le Seigneur. Et... Seigneur, merci pour cette nuée de témoins et merci pour ton enfant Martin Luther King. Il a amené aussi sa réforme à lui avec l'amour et la conviction. Seigneur, merci pour ces écritures dont il est pétri. Nous voulons aussi, Seigneur, être pétris des écritures. Pour qu'elle sorte de notre bouche et qu'elle soit le sel et la lumière de notre vie et qu'elle puisse agrémenter aussi tous ceux à qui on parle. Seigneur, viens renforcer la conviction de chacun ce soir. Si quelqu'un ce soir est dans la difficulté, eh bien, on prend exemple sur ce témoin de la foi pour, dans cette difficulté même, accueillir ta présence et nous laisser toucher par toi, Seigneur, relever par toi. Merci, Seigneur. Bénis-nous en tant qu'Église, Seigneur. Fais de nous une communauté prophétique, Seigneur, qui tienne dans l'adversité et qui annonce l'amour et la justice et qui a le rêve de la terre promise, d'une France guérie, changée, touchée par toi, Seigneur. Et nous voulons chacun là où nous sommes eh bien, contribuer à ton œuvre de rédemption. Tu as tant aimé le monde, Seigneur. Tu as donné ton Fils et tu envoies tes fils et tes filles encore aujourd'hui pour aimer ce monde et le guérir. Merci Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Et que ta paix soit sur chacun. Donne-nous un bon week-end. Donne-nous une bonne nuit. Un bon dimanche, Seigneur, afin qu'on soit sel et lumière.